France Culture.
Le journal par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Rien n'est exclu face à la Russie, affirme Emmanuel Macron au sommet de Copenhague. Les dirigeants européens haussent le ton après les survols de drones ou d'avions sur le territoire européen. Dans un instant, nous retrouverons à Copenhague notre envoyé spécial Fabien Cazot. Israël appelle les derniers habitants de Gazaville à évacuer vers le sud de l'enclave. La Croix-Rouge suspend ses opérations en raison de l'intensification des combats. Nous écouterons le porte-parole du CICR. En France, le Rassemblement national décroche deux vice-présidences au bureau de l'Assemblée. Le RN de retour dans les instances du Palais Bourbon. Le Front républicain n'a pas fonctionné cette fois-ci, contrairement à 2024. Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut améliorer la retraite des femmes. Un geste insuffisant pour les syndicats qui organisent demain leur deuxième journée nationale d'action contre l'austérité budgétaire. Quelle réponse crédible apporter à la guerre hybride menée par la Russie? C'est tout l'enjeu du sommet de Copenhague qui réunit aujourd'hui et demain les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne. Un sommet sous haute surveillance quelques jours après le survol de la capitale danoise par des drones d'origine inconnue. En réalité, les Européens soupçonnent fortement la Russie d'être à la manœuvre de ces opérations de déstabilisation. Aujourd'hui à Copenhague, les dirigeants de l'UE ont multiplié les déclarations pour afficher leur détermination face à Moscou. On retrouve sur place Fabien Cazot.
Si l'Europe n'est pas officiellement en guerre, elle n'est pas non plus en paix. La plupart des chefs d'État ont bien à l'esprit la raison pour laquelle ils se retrouvent une nouvelle fois aujourd'hui à discuter de la défense du continent. Notamment, rappelle Emmanuel Macron, après les multiples incursions de drones dans le ciel européen ces dernières semaines.
Nous sommes dans une confrontation avec la Russie qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation.
Une confrontation à laquelle, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il ne faut pas chercher à se dérober.
La Russie essaie de nous mettre à l'épreuve. Et la Russie essaie aussi de semer la division, l'anxiété dans nos sociétés. Nous ne le permettrons pas.
Parmi les principaux sujets discutés aujourd'hui, celui d'un mur de défense anti-drone aux frontières orientales de l'Europe, des systèmes antimissiles ou encore la défense de l'espace, autant de projets ambitieux qui posent la question de leur financement, elle aussi centrale dans les discussions encore en cours entre les dirigeants européens.
Fabien Cazot depuis le sommet européen de Copenhague au Danemark. En Ukraine, l'offensive de l'armée russe marque le pas. Les soldats du Kremlin se sont emparés de 447 km² en septembre contre 634 en juillet. Les Ukrainiens résistent. Ils tiennent toujours la ville stratégique de Pokrovsk dans le Donbass. Le front est quasiment figé depuis cet été. Mais le grignotage russe continue. La Russie qui contrôle désormais 19% du territoire ukrainien. Au moins 46 personnes ont encore trouvé la mort aujourd'hui à Gaza, selon un bilan fourni par la défense civile gazaoui. L'armée israélienne poursuit son offensive sur la ville de Gaza. Israël qui lance un dernier avertissement aux habitants pour qu'ils fuient vers le sud de l'enclave palestinienne. La Croix-Rouge a suspendu ses opérations dans la ville en raison de l'intensification de ses combats. Christian Cardon est le porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge.
Ça veut dire qu'on a aujourd'hui encore des dizaines de milliers de personnes qui sont à Gazaville, qui ont décidé de ne pas bouger parce que ces personnes ont été déplacées déjà à plusieurs reprises, parce que ces personnes n'ont plus les moyens même de bouger et parce que ces personnes sont désespérées. Donc, tant bien que mal, ce qu'on a pu faire au cours des 2-3 dernières semaines, c'était d'aider ces personnes, notamment avec de la nourriture, en aidant encore une ou deux boulangeries qui fonctionnaient dans un de ces petits camps de déplacés. Mais la situation est vraiment désastreuse pour toutes ces personnes. Donc aujourd'hui, c'est l'inquiétude totale pour ce qui va leur arriver. Mais les derniers jours, ça s'est rendu extrêmement compliqué. C'est extrêmement dangereux de circuler dans la ville de Gaza.
Christian Cardon, porte-parole du CICR, répondait à Étienne Monin. Le Hamas n'a toujours pas donné sa réponse au plan de paix de Donald Trump. Hier, le président américain avait donné 3 à 4 jours au mouvement islamiste pour accepter ses conditions. Faute de quoi, ce sera l'enfer, avait menacé Trump. Les négociateurs du Hamas qui se sont réunis hier soir à Doha, sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie. Réunion sans résultat, le mouvement semble divisé sur la conduite à suivre entre sa branche politique et sa branche militaire. Quand la génération Z manifeste pour ses droits, en Asie comme en Afrique, dans trois pays au moins, les jeunes nés dans les années 2000 descendent dans la rue pour défier le pouvoir en place, le Népal, Madagascar et le Maroc. À Katmandou, comme à Antananarivo, la répression a fait plusieurs dizaines de morts. Au Maroc, la mobilisation a tourné à l'émeute dans plusieurs villes hier soir. Le récit de notre correspondant à Casablanca, Sédic Ralfi.
Des échauffourées à Oujda, mais aussi Inzgen, Bnim Lel Aitamara, près d'Agadir, où forces de l'ordre et émeutiers se sont affrontés toute la nuit. Des dizaines de blessés sont recensés de part et d'autre. Les véhicules de police et de gendarmerie ont été incendiés et ce jeune percuté par un véhicule de police à Oujda. Le mouvement Gen Z de ce week-end change de ton. Il avait manifesté pacifiquement, mais les autorités ont répondu par des centaines d'arrestations.
Je suis un citoyen, pourquoi vous m'arrêtez ? Donnez-moi une raison.
La coalition gouvernementale s'est réunie en urgence et dit comprendre les aspirations de la jeunesse. Santé, éducation, corruption ou encore chômage sont au cœur des revendications pour cette jeunesse qui dénonce un Maroc à deux vitesses. Un paradoxe pour le politologue Nasser Gabriel.
Les manifestations qui ont eu lieu, c'est pour plus d'État. Ce n'est pas moins d'État, mais plus d'État. Aujourd'hui, pour ces nouvelles générations, ce sentiment de précarité, ce sentiment d'insécurité psychique, sociale, vient d'un besoin d'État. L'État semble faible.
Face à la réponse brutale des autorités, les jeunes ont décidé d'occuper le pavé. Tous les yeux sont maintenant tournés vers ce jeune manifestant percuté hier par une voiture de police. La wilaya de Oujda assure qu'il est toujours vivant.
Sédic Ralfi, correspondant de France Culture au Maroc. Les États-Unis en situation de shutdown, paralysie budgétaire en français. Depuis hier minuit, le gouvernement américain n'est plus financé. Il ne peut plus verser les salaires des employés fédéraux qui doivent malgré tout continuer à venir travailler, notamment ceux qui remplissent des fonctions dites essentielles pour les missions de service public. C'est le cas d'Aaron Barker, syndicaliste et employé de l'administration de la sécurité des transports. Isabelle Labéry l'a rencontré à l'aéroport d'Atlanta.
Aaron n'a pas très bien dormi. Il est venu travailler ce matin sans savoir quand il serait payé, comme les 1300 salariés qui scannent les bagages et les passagers à l'aéroport d'Atlanta.
On a vraiment l'impression d'être des pions. Nos législateurs doivent s'entendre, se réunir, trouver une solution, peu importe quel camp est responsable. Ce n'est pas juste que les travailleurs fédéraux qui font fonctionner le gouvernement se retrouvent dans cette situation pour des raisons d'agenda politique.
Une fois le shutdown terminé, le gouvernement versera les salaires de manière rétroactive. Mais comme ses collègues, Aaron est payé tous les 15 jours, il n'a pas de matelas financier. Il a vécu la précédente paralysie en 2018, 35 jours, et il en garde un très mauvais souvenir.
Pour la plupart d'entre nous, perdre un salaire, c'est prendre le risque d'être expulsé ou de devoir vendre sa voiture. Ça risque d'être très dur.
Mais Aaron a aussi un message pour les passagers.
Si vous voyagez, juste soyez gentil avec nos agents, soutenez-les. Vous savez, tout ça, c'est dur à encaisser. Alors essayez d'avoir un peu de compassion.
Depuis ce matin, 700 000 agents fédéraux comme Aaron travaillent sans salaire.
Isabelle Labéry, correspondante de France Culture aux États-Unis. À Munich, un drame familial a interrompu aujourd'hui la célèbre fête de la bière de la métropole bavaroise. Après avoir blessé sa mère et sa fille, un Allemand a provoqué une explosion dans sa maison située à proximité de l'Oktoberfest. Il s'est ensuite donné la mort. Le drame a obligé les autorités allemandes à interrompre la fête de la bière pendant une partie de la journée. À la veille de la deuxième journée nationale d'action des syndicats contre l'austérité budgétaire, Sébastien Lecornu annonce une amélioration de la retraite des femmes. Dans un courrier aux leaders syndicaux, le Premier ministre explique qu'il va inscrire dans le projet de budget certaines mesures issues du conclave sur les retraites sans plus de précision. Lors de ce conclave, les partenaires sociaux encore présents à la Réunion avaient trouvé un accord pour augmenter les retraites des mères de famille. Le montant des pensions étant calculé sur les 23 ou 24 meilleures années de leur carrière contre 25 aujourd'hui. Ce soir, Wafia Kenich, les syndicats jugent le geste de Sébastien Lecornu insuffisant pour répondre à leurs inquiétudes.
C'était une des rares mesures qui faisait à peu près consensus lors du conclave sur les retraites. Améliorer le niveau des pensions des femmes avec un calcul, non pas sur les 25, mais sur les 24, voire les 23 meilleures années. Dans son courrier adressé aux syndicats, c'est ce que le Premier ministre promet d'inscrire au budget de la Sécurité sociale de 2026. Pour Cyril Chabanier, président de la CFTC, c'est une bonne nouvelle, mais qui ne répond pas aux questions posées dans l'immédiat par l'intersyndicale.
Les réponses qu'on attend aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y avoir une année blanche, donc pas de revalorisation de toutes les prestations sociales, oui ou non? Est-ce qu'il va y avoir un doublement des franchises médicales, oui ou non? Est-ce qu'il va y avoir un effort demandé aux entreprises, oui ou non? Est-ce qu'il va y avoir une taxe sur les dividendes, oui ou non? C'est ça les questions qui nous interpellent aujourd'hui. Donc son courrier est une bonne chose, ça va dans le bon sens, mais c'est pour un deuxième acte ça. Aujourd'hui, on est au premier acte qui est quel budget il va mettre sur la table au Parlement, et sur ça, on n'a quasiment pas de réponse.
Dans sa lettre, le locataire de Matignon dit aussi renoncer à une nouvelle réforme de l'assurance chômage et souhaite améliorer le pouvoir d'achat. Pour Yvan Ricordo, numéro 2 de la CFDT, le Premier ministre ne fait rien d'autre que mettre par écrit ce qu'il a dit la semaine dernière après leur réunion. L'intersyndicale poursuit donc son offensive demain dans la rue. Le discours de politique générale du Premier ministre dans quelques jours en dira sans doute plus quant au budget 2026.
Wafia Kinich, merci. Cette deuxième journée de mobilisation pourrait être moins importante que la première. Le 18 septembre, entre 500 000 et 1 million de manifestants étaient descendus dans la rue. Demain, les autorités s'attendent à environ 350 000 personnes dans les 250 cortèges prévus dans toute la France. Les perturbations seront également moins importantes dans les transports, avec par exemple un trafic normal sur le réseau TGV et dans le métro à Paris. C'est l'information politique du jour. Le Rassemblement national fait son retour dans les instances de l'Assemblée. Le RN a décroché aujourd'hui 2 vice-présidents sur 6 avec Sébastien Chenu et Hélène Laporte qui retrouvent les postes qu'ils avaient obtenus en 2022. Mais en 2024, après la dissolution, le Front républicain avait empêché les amis de Marine Le Pen d'accéder à ses responsabilités. On retrouve au Palais Bourbon Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas, il n'y a pas eu de surprise cet après-midi lors du vote pour élire les membres du bureau de l'Assemblée.
Non, pas de surprise en effet. Ce soir, un député vote un autre député, affirmé avec satisfaction le néo-vice-président Sébastien Chenu en sortant de l'hémicycle. Il n'a fallu qu'un seul tour de scrutin, les députés du socle commun ayant voté presque comme un seul homme. La proposition de Yaël Braun-Pivet de faire une place au RN dans les instances a donc été exaucée. Ce n'est que justice, selon la députée RN Hélène Laporte.
Il n'y a pas de tambouille. En fait, je remercie et je trouve normal que les députés des autres groupes trouve logique qu'on soit représenté à notre juste valeur. C'était la situation inverse qui était une tambouille politique anormale.
La gauche qui a refusé l'accord accuse le socle commun et le RN de tripatouillage pour le Parti socialiste. Il s'agit d'un rapprochement qui sera difficile à effacer en cas de nouvelles élections législatives.
Il y a clairement une rupture du Front républicain. Imaginez-vous dans un scénario de dissolution d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, quel va être le message de ce Front républicain si aujourd'hui une telle entorse a pu se produire à l'Assemblée nationale?
Les écologistes, eux, voient beaucoup plus proche pour ce retour du RN au bureau de l'Assemblée. Pour eux, ce retour du RN au bureau de l'Assemblée relève d'une logique très pragmatique, selon le député Jérémy Yordanov.
Les questions de principe qui sont mises en avant par Mme Braun-Pivet ne tiennent pas. Vous le verrez demain dans les élections des présidences de commission. Le deal, il est sur les présidences de commission. Voilà, le bloc central se garantit une majorité avec le soutien de l'extrême droite. Il faut que les électeurs le sachent et en tirent les conséquences sur le plan politique.
Voilà, élections qui auront donc lieu demain avant le début des travaux de l'Assemblée le 6 octobre prochain.
Nicolas Ballu depuis l'Assemblée nationale avec Florent Bujon pour les moyens techniques. Le marché automobile français peine à repartir. Si les ventes de voitures neuves ont légèrement augmenté en septembre, plus 1%, cela reste insuffisant pour compenser la chute de 6,25% enregistrée depuis le début de l'année. Conséquence, les constructeurs ajustent leur production en prenant des mesures de chômage partiel, comme le groupe Stellantis qui va mettre à l'arrêt ses usines de Sochaux et de Mulhouse. Le géant européen avait déjà annoncé une mesure similaire pour le site de Poissy dans les Yvelines. Antoine Boucher, bonsoir.
Bonsoir.
Le groupe Stellantis justifie ses fermetures partielles par le ralentissement du marché automobile européen.
Effectivement, depuis le mois de janvier, les ventes de véhicules Stellantis ont baissé de 10% par rapport à la même période en 2024. Alors, pour justifier ces arrêts temporaires, la direction du groupe invoque aussi, je cite, « une concurrence tarifaire agressive qui fragilise les parts de marché ». Selon les experts du secteur, Stellantis a donc intérêt dans cette situation à réduire sa production pour ne pas trop remplir ses stocks. C'est le cas à Sochaux, où l'usine du groupe va fermer 5 jours en octobre, mettant ainsi 2500 salariés au chômage forcé. Le délégué CFDT, Bilal Benchaha, est inquiet.
On redoute qu'on renouvelle le chômage au mois de novembre, et si on renouvelle le chômage au mois de novembre, ça veut dire qu'on est dans un temps où, en termes de volume, on n'est pas forcément bon et la pérennité de l'équipe de nuit risque d'être engagée. Si on démantèle une équipe de nuit, c'est plus de 400 intérimaires en moins sur le site.
D'autant plus que le site, qui fabrique les Peugeot 3008 et 5008, rencontre un problème fournisseur pour les batteries de ses SUV en rupture d'approvisionnement. 60 km plus loin, l'usine de Mulhouse sera complètement à l'arrêt entre le 27 octobre et le 2 novembre. Plus de Peugeot 308, 408 ni de DS7 sur les chaînes de montage, 2000 salariés sont concernés. Salah Keltoumi, délégué CGT, craint pour la survie de l'usine à terme. D'après Socarist, plus de 300 salariés et intérimaires pourraient être mis à la porte à la chaîne de montage l'an prochain s'il n'assemble pas bientôt un nouveau modèle de véhicule.
Et ne pas avoir de nouveaux véhicules, ça veut dire, à terme, la fermeture de l'usine. Alors l'année prochaine, on va passer en une seule équipe. Et ça, il y a des gars qui commencent à se poser la question, mais à quel poste je vais travailler? Et est-ce que moi, je vais garder mon poste? Et puis, il y a les jeunes intérimaires qui sont là, qui disent, mais ça veut dire que nous, l'année prochaine, on est foutus dehors.
La CGT qui estime à 16% la perte de salaire par jour chômé.
Antoine Boucher, merci. C'est toute l'industrie automobile européenne qui souffre actuellement. En Allemagne, l'équipementier ZF va supprimer 7600 emplois, soit environ un quart des effectifs de sa division transmission. À noter que ce plan de réduction d'effectifs a reçu l'aval des représentants des salariés de ZF la semaine dernière. C'est le leader mondial de l'équipement automobile, Bosch, qui avait annoncé 13 000 suppressions d'emplois en Allemagne. Ils sont invisibles, incolores, inodores et pourtant ils sont partout dans notre quotidien. Les perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques particulièrement nocives pour notre système hormonal. À Marseille, une cinquantaine d'agents municipaux volontaires ont porté pendant quelques jours un bracelet pour mesurer leur exposition à ces perturbateurs endocriniens. Parmi ces agents, des cantinières ou des femmes de ménage travaillant dans des écoles très exposées au risque. La ville de Marseille a présenté aujourd'hui les résultats de cette expérimentation. C'est un reportage de Mathilde Vinceneux.
Nous sommes cernés par les perturbateurs endocriniens. Voilà le sentiment des agents des écoles après avoir porté ce bracelet qui mesure les phtalates. Samia est la première à prendre le micro pour s'adresser aux élus qui ont mis en place cette expérimentation.
Il y a beaucoup de choses à changer par rapport aux produits. Les produits auxquels on est exposés qui sont vraiment, vraiment très toxiques.
Il faut se méfier notamment des produits ménagers très parfumés, explique Marie-Pierre.
Quand ça sent bon dans les écoles, on aime parce qu'on a l'impression que ça apporte du propre. C'est plein de produits qui sont pas bons pour les enfants. Pourquoi après, quand ils ont 20 ou 30 ans, qu'ils veulent faire un enfant, ils n'y arrivent pas? Mais c'est difficile de revenir en arrière. Bon, ça fait 40 ans que j'utilise des produits avec une bonne senteur.
Florence confirme, elle est coordinatrice dans les écoles de Marseille et pas facile de faire changer les habitudes pour le nettoyage ou la cantine.
Il y a vraiment tout à revoir. Et quand après, on dit aux agents, on va peut-être passer à l'eau. Alors là, parce que l'eau pour eux, c'est pas propre. Il n'y a pas que les produits. Il y a aussi les films alimentaires pour filmer les aliments dans le frigo.
Il faut trouver des solutions techniques pour ne pas compliquer le travail des agents, explique la mairie de Marseille, bien consciente que leurs efforts ne suffiront pas. Les résultats montrent par exemple que l'exposition aux perturbateurs endocriniens a fortement augmenté à cause de la canicule.
Mathilde Vinceneux, on termine ce journal avec le bilan de l'une des mesures polémiques prises par la mairie de Paris. Un an après la réduction de la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien et la création d'une voie dédiée au covoiturage, Air Paris dévoile ses premiers résultats de l'impact de ces mesures sur la pollution. L'organisme chargé de suivre la qualité de l'air en Île-de-France note une réduction des émissions de polluants le long de cet axe majeur de circulation. Boris Salé. journalier.
En un an, les émissions de dioxyde d'azote ont diminué de 6%. D'après Air Paris, il s'agit de résultats significatifs liés principalement à une baisse du trafic, moins 4% en un an, avec une concentration de dioxyde d'azote qui perd donc en moyenne 2 microgrammes par mètre cube d'air. Ces analyses concernent directement le périphérique parisien, mais si on regarde un peu plus large dans l'agglomération, sur une bande de 500 mètres de part et d'autre de l'axe routier, là, les niveaux de polluants restent stables. Pas de hausse ni de baisse. Pour les auteurs de l'étude, cela démontre que les voitures, camions ou deux roues ne se sont pas détournées du périphérique pour circuler sur les axes adjacents, comme certains le craignaient. La pollution aux particules fines, elle, en revanche, a augmenté selon une autre étude, mais principalement en raison de conditions météo défavorables.
Cette dernière information concernant la présence d'un navire de la flotte fantôme russe au large des côtes françaises, eh bien, on apprend ce soir que des militaires français sont à bord d'un pétrolier fantôme russe qui a été repéré ces derniers jours au large de Saint-Nazaire. Un mot du temps, demain, le soleil dominera sur presque tout le pays, les conditions anticycloniques se maintiennent, toujours des brouillards demain matin en Bretagne, en Bourgogne, en Alsace. Les températures minimales restent fraîches, entre 4 et 9 degrés en général. L'après-midi, il fera de 15 à 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.